Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Stéphane Carpentier.
7h43, bon réveil à vous. Benjamin Sportouche, votre invité ce matin, est le ministre chargé des Transports.
Bonjour Jean-Baptiste Djebbari.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Alors le pass sanitaire, on l'a compris, sera obligatoire pour prendre le train et les autocars à partir donc du 1er août. Est-ce que vous confirmez cette date? C'est bien le 1er août?
Alors ce sera à compter de début août, en fonction des débats qui vont se nouer au Parlement. Nous présenterons le texte en Conseil des ministres le 19, pour un début de passage au Parlement le 21, et donc ce sera certainement après le week-end du 1er août, qui, comme vous le savez, est un grand chassé-croisé. Mmh. Et ce sera donc certainement dans la semaine du 2 août, plutôt.
Ah, donc on aura quelques jours de tolérance, c'est ce que vous nous dites ce matin.
C'est ça, dans les faits, puisque les débats risquent effectivement de durer un peu au Parlement. L'idée qui est poursuivie, elle est simple. Hein, c'est à la fois concilier la liberté de déplacement et inciter à la vaccination. On voit que sur l'incitation à la vaccination, les choses vont bon train, puisqu'on a déjà plus d'un million sept de personnes qui ont pris rendez-vous. Et sur la liberté de déplacement, peut-être simplement dire qu'il y a des choses qui ne changent pas. Nous préserverons le même nombre de trains pour tous l'été, notamment à la SNCF. Les conditions d'achat, de remboursement, d'annulation ne changent pas non plus. Ce qui change, c'est effectivement l'exigence de présenter un test ou un vaccin, et donc de ce pass à compter de début août pour les trains longue distance, c'est-à-dire les TGV, les intercités et les trains de nuit.
Oui, on va y revenir, mais donc vous nous dites que quoi, les contrôles vont commencer à partir du 5 août par exemple?
On verra la date exacte en fonction de la date légale d'entrée en application du dispositif, mais oui, c'est plus probablement dans la semaine du 2 août que le 1er août stricto sensu.
D'accord, parce que c'est un dimanche en effet, et c'est un week-end de chassé-croisé, vous l'avez noté. Alors, est-ce que vous allez mettre très concrètement en place des portiques spéciaux pour flasher justement les QR codes des certificats vaccinaux à la SNCF? Est-ce que ça pourrait être les mêmes que les billets?
C'est ce qu'on est en train d'essayer d'organiser un peu sous deux angles. D'abord, effectivement, l'interopérabilité. Regardez si on peut, en quelque sorte, lier le pass sanitaire au billet. C'est la chose la plus simple à faire, mais ça nécessite un peu de temps. On est en train de regarder ça avec mon collègue Cédric Haut. Et puis, deuxièmement, regarder en fonction des configurations des gares, quelle est la façon la plus facile d'organiser les contrôles. On a un peu l'habitude de le faire, finalement, depuis qu'on s'est mis à contrôler l'attestation dans les gares il y a maintenant un peu plus d'un an. Donc, les gares, et en général les grandes gares parisiennes, vous savez, bénéficient d'ores et déjà de portiques pour l'accès à un certain nombre de TGV. Donc là, c'est facile de le faire en gare, en amont de la montée dans le train.
Donc, ils pourraient être utilisés, ces portiques, pour les passes.
Absolument. Alors, pas forcément les portiques eux-mêmes, mais en tout cas, l'endroit physique, le filtre physique. Il y a d'autres gares dans lesquelles les choses se prêtent moins, et on évalue aussi les possibilités d'avoir des contrôles à bord. Donc tout ça est actuellement débattu en lien avec les agents de la SNCF et la direction notamment.
Alors, c'est vrai que tout ça paraît un peu improvisé, Jean-Baptiste Djebbari. Même la SNCF dit que l'ensemble des modalités pratiques seront communiquées dans les prochains jours, mais pour les gens qui nous écoutent, c'est quand même assez important de savoir où ils vont.
On a commencé à discuter. J'ai réuni la SNCF, Air France, les opérateurs vendredi dernier. Nous avons eu une deuxième session de travail il y a maintenant deux jours, et nous discutons depuis hier sur les modalités très pratiques pour bien périmétrer les seuils des personnels qui sont soumis au pass sanitaire. Vous savez que nous avons posé un délai, un peu de souplesse pour notamment les salariés qui opèrent dans les établissements publics, et c'est donc au 30 août que le pass sera exigé pour eux.
D'accord.
Donc ça, c'est une souplesse côté entreprise. Et puis nous organisons les contrôles et les modalités sur le plan très pratique actuellement.
Alors, ça veut dire justement que Olivier Véran a dit hier soir qu'on pourra enlever le masque dans le train, notamment quand on aura un pass sanitaire. Quand pourra-t-on enlever ce masque dans les trains? Parce que c'est un peu double peine, j'allais dire, c'est le pass sanitaire plus le masque.
Non, je crois qu'il a dit dans les établissements recevant du public.
Oui. Alors bon, c'est un peu différent. D'accord, mais le train peut faire partie aussi de cela. Qu'est-ce que vous
à ce stade, dans la mesure où jusqu'au 30 août, il y a de la souplesse pour notamment les contrôleurs de la SNCF. Il n'y aura pas donc de passe exigé pour les contrôleurs de la SNCF. Jusqu'au 30 août, nous préserverons au moins le port du masque obligatoire dans les transports. C'est une mesure qui est bien comprise. C'est une mesure de sécurité sanitaire. Et le passe, c'est une mesure d'incitation au vaccin. Donc, vous voyez, nous ne sommes pas tout à fait non plus sur les mêmes objectifs poursuivis. Donc, nous préserverons le port du masque à ce stade, au moins jusqu'au 30 août prochain.
Quelle est la proportion aujourd'hui d'agents SNCF vaccinés, vous le savez?
Non, je ne sais pas. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il y ait de fichiers qui l'établissent. Mais je pense que c'est sensiblement la proportion connue dans la population. On voit bien qu'on a quoi, 28 millions de personnes complètement vaccinées, un peu plus de 36 millions qui ont reçu une première dose, et les chiffres accélèrent évidemment.
Il y aura des centres de vaccination destinés aux agents de la RATP.
De la même de la même façon qu'on l'a fait pour les centres de test à proximité des gares, pour à la fois les usagers du rail et les personnels. Oui, il y a la médecine du travail qui organise tout cela dans ces grandes entreprises publiques.
Vous dites aux voyageurs ce matin de prendre leur disposition pour arriver plus tôt, parce qu'il y aura des files d'attente forcément, même s'il y aura quelques jours, on l'a compris.
Alors d'abord, ils le font, mais oui, la réponse est plus on s'organise collectivement, mieux c'est.
Combien de temps avant ?
Là, nous affichons les quais sur les trains longue distance 30 minutes avant. Mm-hmm. Historiquement, c'était 20 minutes. Mm-hmm. Donc 30 minutes avant, ça vous permet de cheminer vers le train, de passer les différents filtres.
Et 30 minutes avant.
En tout confort et en toute sérénité.
D'accord. Et quand on aura une correspondance, ça aussi, c'est une question concrète, hein, on devra à nouveau montrer son passe ?
Ça dépend de la configuration de la correspondance, mais d'une manière générale, la réponse est plutôt oui en principe. Dans l'application des choses, c'est, parfois les correspondances ne repassent pas par les filtres des gares et les filtres ne seront pas systématiques dans toutes les gares à tout moment.
Sera des contrôles aléatoires plutôt.
On va organiser des contrôles massifs sur les grands flux, typiquement les grands départs en vacances, mais on parle de 500 000 personnes par jour. De la même façon que le contrôle des attestations de plusieurs dizaines de millions de personnes, vous n'avez pas à tout moment des personnes qui contrôlaient en tout point et en tout lieu l'attestation. Mais il y avait bien des contrôles qui étaient pour partie massifs et localisés et pour partie aléatoires. Ce sera la logique poursuivie dans les prochains jours.
Donc il y aura aussi
dans les transports.
De l'aléatoire. Mais les forces de l'ordre vont-elles aider les contrôleurs de la SNCF justement à faire ce travail?
C'est ce qu'on est en train de discuter avec Gérald Darmanin. C'est ce qu'on a fait pour le contrôle notamment des documents sanitaires dans la période précédente, de confinement et de déconfinement. Donc ça aussi, c'est un sujet en débat. Vous savez que nous avons assermenté un certain nombre de personnels de la SNCF, de la RATP, pour contrôler par exemple le port du masque, pour le cas échéant infliger des amendes à ceux qui ne respectent pas la règle. Et donc nous sommes en train d'organiser cela avec avec Gérald Darmanin.
Ça sera combien l'amende justement si on n'a pas son passe sanitaire ?
Ça va être au débat.
135 euros ?
Ça va être au débat du texte qui va être présenté.
Mais vous,
au
qu'est-ce que vous souhaitez ? Vous êtes ministre en charge.
Je ne souhaite jamais qu'on ait des amendes.
Oui. Voilà. Mais est-ce que ce sera minimum 135 euros ?
En fait, l'idée, c'est quand même globalement qu'on présente le passe. Et que le contrôle soit bien fait. Et qu'il y ait le minimum de personnes dans les trains qui ne respectent pas l'exigence du pass. Après, pour compléter le dispositif, nous n'avons pas encore décidé quel était le montant de l'amende.
Comment ça se fait que vous n'ayez pas encore décidé ?
Le texte n'a pas été présenté le 19. Je sais que vous êtes impatient.
Les Français qui nous écoutent se disent quand même tout ça.
Les Français qui nous écoutent comprennent que le texte va être présenté le 19 juillet, qu'il y aura un débat parlementaire et que ça rentrera au moins dans 3 semaines. Vous voyez ?
3 semaines, avec un peu de tolérance, on l'a compris, pour la semaine du 3 août. C'est vous qui nous le confirmez, surtout. Pourquoi des contrôles dans les TGV et pas dans les TER et dans les Transilien ? Ça m'échappe, ça, Jean-Baptiste Dubarry. Qu'est-ce qui justifie la différence de traitement ? La durée de trajet n'est pas une justification, car on ne passe pas plus de temps pour aller à Lille en TGV qu'en prenant un TER ou un Transilien.
Il faut une règle simple. Oui. Donc, on a regardé les trains longue distance dans lesquels vous avez essentiellement des personnes qui se déplacent pour des motifs de loisirs. C'est encore une fois une mesure d'incitation à la vaccination. Donc l'idée que c'était que ce soit simple, que ça incite. Et dans les transports du quotidien, vous avez essentiellement des gens qui vont travailler. Ensuite, sur les trains à longue distance, vous avez des réservations obligatoires en général. Donc on a capacité, par exemple, à lier le pass et le billet. Et par ailleurs, vous l'avez dit, vous avez des filtres qui sont physiquement organisés en général, notamment dans les grandes gares parisiennes, en amont de la montée du train. Donc pour toutes ces raisons pratiques et un peu de logique, en quelque sorte, nous avons choisi de centrer le dispositif sur TGV.
C'est vrai que la logique, elle ne paraît pas évidente, pour être très franc. Mais bon, c'est ce que vous
admettons que c'est un point de désaccord entre nous.
D'accord. Alors, on va continuer. J'espère qu'il n'y aura pas de point de désaccord sur la question suivante. Parce qu'on se dit, à partir de quand il y aura des contrôles dans les autocars ? Il n'y en a rien à voir dans les trains. Est-ce qu'il y aura des contrôles dans les autocars ? Là, j'imagine
le
que
même
oui.
Le principe s'applique. Donc, les autocars qui font essentiellement des transports interrégionaux, donc là encore, essentiellement des déplacements pour des motifs de tourisme. J'ai eu hier un contact avec certains représentants autocaristes, notamment de ce qu'on appelle les cars Macron. Et là aussi, l'objectif, c'est à la fois d'avoir ces contrôles, ce dispositif en place à compter de début août, de préserver leur activité économique. Ils ont beaucoup souffert, les autocaristes.
Alors d'abord, qui pourra contrôler ? Là aussi, les policiers pourront montrer à bord d'un autocar ?
De la même façon, tous les agents assermentés, y compris les forces de l'ordre, peuvent le faire. L'objectif, vous savez qu'il y a des gares routières. C'est probablement là aussi, un peu de façon symétrique à ce qu'on fait dans les gares, qu'on pourra faire porter les contrôles. Et là aussi, ça impliquera certainement à la fois les agents des compagnies exploitantes et peut-être des forces de l'ordre. Tout ça est encore largement à définir.
Beaucoup de choses à définir. Les autocaristes seront sanctionnés s'ils ne font pas ces vérifications avant de faire monter les passagers à bord.
La logique, c'est que par la loi, nous posons des règles que les exploitants, donc les autocaristes et la SNCF et Air France et les compagnies aériennes, bref, doivent respecter les règles et qu'il y a des sanctions pour les exploitants qui ne respectent pas les règles. C'est la logique qui prévaut depuis maintenant plusieurs mois.
Donc il y aura des sanctions. Et ces transporteurs, vous l'avez dit vous-même, s'inquiètent des annulations en cascade qu'il pourrait y avoir, surtout sur les jeunes qui ne seront pas encore vaccinés, même s'il y aura une tolérance pour les 12-17 ans. Mais ils ont une crainte sur la perte d'activité. Est-ce qu'il y aura des compensations pour le mois d'août, notamment, quand ces sociétés-là n'auront pas le plein de passagers comme elles l'espéraient à cause du pass sanitaire? Est-ce qu'il y aura des compensations?
Bon, d'abord, en vérité, les compagnies n'ont pas le plein de passagers depuis maintenant de nombreux mois.
Mais là, ça allait remonter, justement. Elles étaient plutôt optimistes.
Par exemple, on est plutôt à 70%. En revanche, pour les réservations, par exemple, SNCF, on est quasiment au niveau de 2019. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de déréservation.
Ah, il n'y a pas eu de déréservation, c'est ce que vous nous dites depuis les annonces d'Emmanuel Macron?
Il y a même plutôt une volonté de continuer à voyager. Il y a une volonté de s'informer, raison pour laquelle on a essayé de clarifier les choses le plus possible, et encore ce matin, et notamment sur les modalités d'échange, de remboursement, d'annulation. Je le redis, elles sont inchangées. Et il y a une volonté, je crois, pour les Français de partir en vacances avec la SNCF et d'autres.
Mais pas de compensation pour l'instant envisagée pour les autocars.
Nous n'observons pas de perte de recettes passagers.
Alors, autre sujet dans l'actualité du jour, c'est le plan climat européen qui sera annoncé un 14 juillet par la Commission européenne. Elle présente donc présente aujourd'hui son plan climat. Alors, peut-être beau symbole, mais est-ce que ça sera pour tous ce beau symbole? Parce que parmi les mesures envisagées, Jean-Baptiste Djebbari, il y a une taxe carbone pour les transports routiers. On parle de 5 centimes de plus par litre d'essence pour les ménages et une augmentation de la facture de 44% pour les ménages par an. Est-ce que la France est pour cette taxe carbone? Comme l'Allemagne l'est aujourd'hui.
Alors, la France est pour l'objectif de moins 55%, c'est-à-dire la France
d'émissions
est pour
de gaz à effet de serre
par rapport au niveau de 90, et donc qui nous met sur la trajectoire de 2%, et donc ce qui nous permet de remplir nos objectifs climatiques. C'est vraiment là-dessus que j'insiste ce matin. Et après, c'est les chemins qui sont empruntés par les différents secteurs. Donc, on voit bien que le chemin de la filière automobile, il est plutôt tracé. On a des constructeurs, notamment français, qui ont fait des annonces tout à fait conséquentes sur la part du véhicule, par exemple, pur électrique. La décarbonation dans l'aérien, elle aussi, est engagée. Nous avons investi beaucoup de moyens.
Pardon, vous ne répondez pas précisément à ce que vous êtes
sur maintenant. Sur le routier, nous sommes plutôt réservés pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le principe... Et le principal pour nous, c'est de décarboner le transport routier. C'est donc de mettre à disposition des transporteurs routiers, demain, des camions à hydrogène, des camions électriques, en dur. Et puis de faire davantage de régulation sociale aussi. Donc, c'est un secteur qui a beaucoup souffert.
Plutôt réservé sur cette
réservé, donc nous allons... Parce qu'en fait, le document, il fait plusieurs milliers de pages.
C'est vrai.
Donc nous allons l'étudier, la proposition de la Commission, et le cas échéant, la débattre.
L'Union européenne devra donc annoncer aussi la fin de la vente des véhicules thermiques à partir de 2035 ou 2040. Très rapidement, l'électrique deviendrait alors la norme, sauf qu'il n'y a pas assez de bornes de recharge électrique à disposition aujourd'hui.
Deux choses. D'abord, les émissions de transport à 50%, ce sont les véhicules individuels. Et un véhicule électrique, ça pollue 4 fois moins qu'un véhicule thermique. Donc il faut faire de l'électrique et les Français le font. Il faut des bornes. Aujourd'hui, nous avons plus de 700 000 bornes partout en France, essentiellement des bornes chez les particuliers et chez les entreprises. Nous avons plus de 45 000 bornes qui sont ouvertes au public. Oui. C'est nommé sur le podium européen avec l'Allemagne.
Il en faut 100 000, il y en aura bien 100 000 d'ici la fin de l'année comme prévu?
100 000 qui seront engagés ou déployés. Et en tout cas, ça va beaucoup plus vite que prévu. Nous en avons fait 4 000 bornes l'an passé. Nous avons fait déjà 11 000 bornes cette année. Ça accélère. Et encore une fois, nous sommes parmi les meilleurs au niveau européen.
Toute dernière question, une taxe sur le kérosène, très redoutée par les compagnies aériennes. Elle sera appliquée en France et à partir de quand? Parce que ça risque de faire augmenter
encore
les billets.
Encore une fois, le sujet, c'est de le faire au niveau européen. Sinon, on s'ouvre à la concurrence internationale. Et le sujet pour nous, c'est de décarboner l'aviation. On a un grand plan de recherche industrielle pour ça.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste Djebbari. Bonne journée.